Sophie Fontanelle vient de publier un roman sur un personnage dont vous avez au moins entendu le nom, à défaut de bien le connaître, c'est Scheherazade. Et en inventant la vie de Scheherazade, Sophie Fontanelle écrit sur le désir des femmes. C'est ce qu'elle fait de livre en livre, finalement.
C'était de fait une obsession dans ma vie. Parce que...
Qu'est-ce qui était une obsession ?
De
faire l'amour ?
Non, de pouvoir expliquer ce que c'est pour moi faire l'amour. Et vous savez, on parle tout le temps du consentement, et on a bien raison, mais finalement, ce sur quoi travaille Scheherazade, c'est le contentement. Comment, toi, homme, tu vas rendre une femme contente ?
Elle a dit oui, joyeusement, dans l'interphone. Et dans l'ascenseur, j'appuie sur le chiffre 6. Je ne suis jamais allée chez Sophie Fontanelle, et pourtant je connais les lieux, parce qu'elle filme parfois des bouts de son petit appartement sur Instagram. Près de 500 000 personnes connaissent donc ces trois chambres de bonne en enfilade, sous les toits de Paris. Sophie Fontanelle fut chanteuse, elle écrit des articles sur la mode chaque semaine dans le Nouvel Obs, et elle publie des romans. Certains racontent sa famille, sa vie de femme sans amant, ou sa vie de femme qui décide de ne pas cacher ses cheveux blancs. À 59 ans, elle a posé nue pour le journal Elle. Aujourd'hui, Sophie Fontanelle publie Scheherazade et la 602e nuit, l'histoire d'une jeune femme qui apprend à un homme à faire l'amour. Et Sophie Fontanelle imagine la vie de cette bienfaitrice. Le roman réunit trois générations de femmes. Il y est donc question de transmission, mais aussi de Venise et de l'Arménie, et surtout de désir, au pluriel. Sophie Fontanelle m'attendait sur le pas de la porte. Nous sommes debout dans son salon. J'ai dit « Où s'installe-t-on ? » La pièce est petite et nous avons tourné sur nous-mêmes.
Totémique, Rebecca Manzoni, sur France Inter.
Alors, est-ce qu'on peut se mettre là ? Parce que tu vois, par exemple, tu te mets là. Comment tu veux ? Ou alors on se met là-bas ?
L'idée, c'est qu'on soit côte à côte.
Alors peut-être là ?
D'accord.
Je t'ai préparé du petit thé froid, là. Voilà.
En fait, là, moi, je suis chez vous. On est sur un canapé sur lequel je ne me suis jamais assise, mais que je connais. Parce que vous le mettez en scène sur Instagram. Comment vous mettez ça en scène ? Comment vous avez réfléchi à ça ?
D'abord, première réflexion, je ne peux me montrer que parce que je montre les autres. Enfin, les comptes où les gens ne font que se montrer, je me dis, ils ont un petit problème psychologique. Voilà. C'est comme ça que je vois ça, alors que parfois c'est leur métier, bon, ils vivent de ça. Moi, je me dis, voilà, je dis aussi un livre que j'ai aimé, quelqu'un dans la rue que j'ai vu passer, des gens qui m'arrêtent, des gens que j'arrête, voilà. Bon, déjà, premier point. Deuxième point, pour l'intimité, quelqu'un m'a dit un jour, mais tu montres toute ton intimité. Ah, mon Dieu, si des gens pensent que mon intimité, c'est mon appartement, mon intimité, elle est... Je sais même pas si j'y ai accès, quoi. C'est tellement dans les rêves, c'est quand on dort qu'on a accès à son intimité. C'est, donc, pour moi...
Mais d'ailleurs, on ne voit pas tout de chez vous.
Je vais vous dire ce que j'essaie de montrer. J'essaie de montrer qu'on peut faire quelque chose de joli avec les moyens du bord. Alors, les moyens du bord, c'est autant mon corps. J'ai 63 ans, je ne suis pas la plus jolie des femmes. J'essaie de m'arranger, voilà. J'essaie de m'arranger, et puis tout d'un coup, je vais devant ce miroir, qui je dois un peu la vie, parce que à des moments où je doutais, etc., ben, ce miroir, il m'a fait me lier aux autres. J'ai dit, voilà comment je suis. Et petit à petit, il y a des gens qui sont venus dire, ben, tiens, mais moi, ça m'intéresse, ça me donne du courage.
Il vous a sauvé la vie ?
Oui, à des moments, il m'a sauvé la vie, parce que moi, quand j'étais jeune, je regardais dans les miroirs, et je ne me voyais pas dans les miroirs. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils voient, les gens, quand ils me regardent ? J'aurais rêvé d'être Brigitte Bardot, d'être une super jolie fille, et j'avais l'impression que je n'étais pas ça. Après, maintenant, ça n'a plus de sens, parce qu'à mon âge, on a la beauté que tout notre être a réussi à acquérir. Et donc, en fait, cette question ne se pose plus. On me trouve belle, on ne me trouve pas belle, ni même moi, c'est plus une question, en fait. C'est plus une question, mais quand j'étais jeune, oui. Je voulais avoir un nez en trompette, j'avais les oreilles décollées, j'étais furax. Donc, j'ai eu des problèmes à me regarder dans le miroir, comme énormément de femmes, qu'elles soient belles ou pas. Ce miroir, de me mettre devant et de dire, on va faire un état des lieux. Il y a des matins où, j'avais pas envie, je l'ai fait quand même. Et petit à petit, j'ai commencé à me dire, mais en fait, tiens, ça c'est bien, ça me va bien, ça c'est bien quand je fais ça. Et j'ai commencé à réfléchir à, comment me présenter. Voilà, il y a une construction de soi qui est possible avec, ce que je dirais, les moyens du bord. Bon, bah, ça m'a aidé.
J'aimerais maintenant qu'on écoute la voix que vous avez choisie.
Et moi, quand je fais quelque chose, je vais jusqu'au bout.
Tiens, qui est-ce ? Allez, je vous remets le son.
Eh bien, moi, quand je fais quelque chose, je vais jusqu'au bout.
Françoise d'Orléac, dans L'Homme de Rio, de Philippe de Broca. Elle et Belmondo, pour un amour virevoltant et des aventures à la Tintin. Partir à travers le Brésil, à la recherche d'une statue volée, elle est toujours partante. Lui, moins. Extrait de L'Homme de Rio, Jean-Paul Belmondo, Françoise d'Orléac et un enfant carioca.
La statue.
Snorti Castro.
Tu le connais ?
Je connais.
Et où est-il ? Ah, il est parti, en avion.
Si.
Où ça ?
À Brasilia, il est mort, Brasil.
Adrien, tu entends ? Tu casses trop à Brasilia, il n'y a pas une île.
Le débit.
C'est la porte à côté. Comment on y va, en métro ? Tu veux un ticket ? Attends. Tiens, regarde. Ah, Paname. Respire.
On ne se moque pas de ce qu'on aime. Tu ne m'aimes pas.
Oh, je te l'ai pas assez prouvé.
Toujours des mots faciles. C'est loin, Brasilia ?
Non, là, Gino. 1000 ou 2000 kilomètres.
1000 bornes, il nous faut une voiture.
J'y connais des quelconques.
Ah oui. De quelle couleur je veux ?
Rose, avec des étoiles vertes.
C'est merveilleux, non ? Cette voix. Alors, il y a une raison pourquoi j'ai pris cette voix, c'est parce que j'adore son débit vocal. Et il y a des années de ça, j'espère qu'elle ne va pas m'en vouloir de raconter ça, j'ai interviewé Catherine Deneuve. Et elle aimait bien une chronique que je faisais dans Elle, qui était des aventures de Faunel, enfin bon bref, c'était des dialogues, cette chronique. Elle entendait, elle disait, c'est comme ça que je parlais avec ma sœur. Et moi, on m'a toujours dit que je parlais trop vite. Et quand elle m'a dit ça, j'ai eu l'impression, mais je me sens très proche. Quand Catherine Deneuve et Françoise d'Orléac parlent, c'est mon monde, en fait. C'est des jacasseuses. C'est vraiment... elle s'en laisse pas compter. Et de temps en temps, d'ailleurs, Catherine Deneuve, elle peut vous mettre un vent quand elle vous voit. Et puis de temps en temps, au contraire, elle est très... Elle a envie de parler. Mais ce truc piquant, là... Mais qu'est-ce que c'est chouette, les femmes qui sont comme ça. Qu'est-ce que c'est chouette. Et cette voix un peu enrouée aussi... et puis elle est un petit peu timbrée, elle mangeait que essentiellement des concombres à la russe. Elle me plaît et sa voix reflète exactement son originalité et un peu sa noirceur.
Un peu sa noirceur ?
Oui, il y a une noirceur, je trouve, chez elle. On voit dans ses yeux quand on voit des images d'elle. De toute manière, ce niveau de gaieté, etc., il y a une gravité, voilà, on va dire.
C'est aussi un peu un autoportrait que vous faites là.
Ben moi, je ne sais pas si je suis aussi grave. Il y a un haïku, je le dis très mal, que j'adore. À la fin de sa vie, le sage résuma et dit « Hé hé, j'aimerais bien mourir comme ça. J'aimerais bien dire hé hé. J'ai vu ma mère mourir, on ne dit pas hé hé quand on meurt. Ce n'est pas du tout l'ambiance. Mais voilà, moi j'ai un petit côté comme ça et... Il m'arrive d'avoir de la gravité, bien sûr. Enfin, comment je pourrais écrire si j'en avais pas ? Il est évident que j'en ai, mais c'est quelque chose que je vais ranger pour écrire, à un moment donné, les sentiments, essayer de comprendre ce qui se passe dans le cœur des gens. Il faut pouvoir aller de tous les côtés, quoi. Donc, on va du côté léger et du côté grave. Mais moi, ça, c'est quand j'écris, je vais ouvrir ça, quand je vais pouvoir ouvrir mon cœur, en fait. Mais dans la vie, j'aime pas beaucoup le pathos, j'aime pas beaucoup le... J'appelle ça du pathos, voilà. Donc, ça veut tout dire.
Une partie de Scheherazade et la 602e nuit, nouveau roman de Sophie Fontanelle, se déroule à Venise. Une certaine tante Anaïde y emmène Sophie quand elle a 17 ans. Anaïde est une arménienne fantasque de 50 ans qui veut faire découvrir Venise à Sophie et lui faire lire les contes des mille et une nuits. Mais quand on a 17 ans, Venise, ça n'est pas que la littérature et les églises. C'est les jeunes Italiens aussi. Extrait de Scheherazade et la 602e nuit de Sophie Fontanelle. Certains des jeunes étaient pieds nus, les cheveux en désordre, encore humides. Ils avaient profité des premières journées assez chaudes, ils revenaient de la baignade. Que l'eau soit encore froide à cette saison, cela ne les arrêtait pas, ils en parlaient devant nous. Ainsi donc, il y avait ici une vie balnéaire insouciante, une vie spéciale des gens de ma génération. Une fois, ils accostèrent en barque le long du quai avec des involtures, des cow-boys aguerris à l'entrée d'un saloon. Leur liberté m'attirait. Je ne savais pas encore que mon destin serait de solitude et d'écriture. Et Canaïde avait raison de le penser. J'aurais tout donné pour être avec eux dans la barque. Non loin, ils riaient de bêtises. On fait ça quand on peut se le permettre. Et j'aurais tant voulu posséder cette richesse. D'un autre côté, il y avait ma tante, cette rareté. Vous vous mettez en scène à 17 ans. Vous étiez quelle jeune femme, vous, à 17 ans ?
J'étais un petit peu celle que je décris, même si j'ai beaucoup, beaucoup réimaginé cette histoire. Quand j'avais 17 ans, ma famille mettait l'instruction et la culture au centre de tout. En fait, ce qu'on me demandait d'être, pour qu'ils soient fiers de moi, ce qu'ils me demandaient d'être, c'était d'être cultivée. Et c'est ce que je suis devenue.
Pourquoi c'était si important, la culture, chez vous ? Pourquoi c'était si important que vous soyez cultivée ?
Parce que c'était des Arméniens. Ben, du côté de mon père, ce n'était pas si important. C'était des familles de dentistes, bourgeois, avec mon père un peu déclassé. Voilà. C'était des gens... Non. La culture, ce n'était pas très important. Mais dans la famille arménienne, c'était être bon à l'école, savoir bien parler. Pas juste parce qu'on parlait français, mais avoir un vocabulaire qui fait qu'on se dit mais cette personne est extraordinaire. La francophonie. Le fait d'aimer la poésie française, le fait de la connaître. Ma mère trouvait que quand on lit les livres qui viennent de sortir comme ça, on fait qu'à moitié le travail. Il fallait lire tout d'un coup, fallait trouver quelque chose. Hein, le journal de Delacroix, que j'ai lu bien plus tard d'ailleurs, mais ce genre de choses. Alors elle ne les lisait pas, c'est ça qui était drôle. Dans sa bibliothèque, elle avait des Sagan, elle avait des Belles du Seigneur, voilà. Mais elle avait un fantasme qu'il n'y avait pas mieux, et sa fille, il fallait qu'elle soit encore plus française qu'elle. Et sa fille, elle allait être tellement cultivée. Et quand je disais « putain, merde » ou quand je disais « mouais », elle me disait « mais on n'a pas traversé la mer depuis l'Anatolie pour que tu dises mouais, quoi. » C'est, y a un vrai rêve d'intégration, un vrai rêve de culture.
L'Arménie est présente dans ce livre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'Arménien en vous, si je puis dire ?
Eh bien, il y a quelque chose... Attendez, je bois une gorgée de thé pour répondre à cette question encore mieux. Il y a quelque chose qui vient d'arriver il y a quelque temps, c'est qu'il y a la langue. C'est-à-dire que moi, j'ai tellement été élevée dans la langue française, ma mère, qui parlait parfaitement arménien, ne me parlait pas arménien. Et maintenant, j'ai envie de parler arménien. Et quelqu'un m'a dit que Eric Orsena s'était mis au piano à 68 ans, etc. Quelqu'un m'a dit ça ce matin. Je me suis dit, bah, tiens, moi, je vais me mettre à l'arménien.
D'ailleurs, une page de dictionnaire arrachée d'arménien est insérée au début du livre.
Oui, parce que, en fait, ma tante, quand elle était âgée, elle était trop faible pour bouger de son lit, et elle avait un dictionnaire franco-arménien. Et à Noël, elle arrachait une page du dictionnaire, et elle pensait que ça correspondait à ce qu'elle voulait nous dire. Et moi, j'ai eu droit à Sublime, et dans Sublime, il y a Sublime Vizir, Sublime Roi des... je sais pas quoi. Enfin, voilà, il y a tous les mille et une nuits, quoi. Elle m'a offert ça.
C'est merveilleux de se voir offrir une page de dictionnaire au mot sublime.
C'est pas mal, ouais. Ça met la barre très haut, mais... Enfin, ça fait deux choses. D'un côté, ça met la barre très haut, et de l'autre côté, je dirais pas que c'est pas du tout un poison, hein, parce que... Mais il y a quand même des choses légères, futiles, que j'ai jamais faites. Parce que si c'était pas sublime, fallait pas le faire. Il y a un mot qui veut dire « parce que » en arménien, qui est « vorovedev ». Et ma tante, qui est dans le livre, Anaïde, était tellement snob qu'elle ne disait pas « vorovedev ». Vous voyez comme c'est beau quand même, hein, ce mot. Elle disait « vorovedev ». Finalement, tout le monde est mort. Et ils sont dans la langue encore. Donc il faut que j'aille retrouver cette langue.
Dans Scheherazade et la 602e nuit, Sophie Fontanelle raconte la mort de sa tante Anaïde. Elle écrit « Ma tante disparut à 90 ans, non sans avoir lancé à la ronde un regard exorbité et désapprobateur. Ce regard était apparu aussitôt après que, dans son sublime et clair appartement tout de baies vitrées et de bois, au 28e étage d'une tour parisienne, mon frère lui avait annoncé « l'ambulance arrive ». Elle exécrait la laideur des hôpitaux. Évaluant le sort qui l'attendait, elle avait lâché le dernier fil esthétique qui la reliait à la vie. le bras sans duvet qui s'était tant de fois déployé et qui, en se tendant, nous avait montré le monde, avait glissé du lit, inerte. Anaïde, morte. Comme décidément plus rien ne vibrait sur le lit, mon frère avait pris son téléphone. « Sophie, Anaïde, c'est fini », annonça mon frère. Cette phrase contenant une telle absurdité, il ajouta, elle n'en revenait pas.
C'est depuis que je suis enfant que j'aiguise mon plan. En plaisantant, je disais, quand je serai grand, je le suis maintenant. Le présent, je dois le vivre. Ça fait longtemps que je crie. Mais le plus important, c'est qu'on chante. Maintenant, j'écris. Le puzzle s'assemble, pièce manquante.
J'ai cherché tout autour du monde. J'ai fait tous les mauvais endroits. Eux qui ne flattaient que mon nom. Le soleil était en moi. Cherchais tout autour du monde. J'ai fait tous les mauvais endroits. Qui ne flattait que mon nom. Quand le soleil était en moi.
Depuis que mes chaînes brillent comme le ciel, je vois mes échecs signés sur le chèque. La vie devient sexy, baby chèque comme ça.
En 2011, Sophie Fontanelle publie un roman autobiographique qui s'intitule « L'envie », l'histoire d'une femme qui décide d'arrêter de faire l'amour parce que pour elle, l'acte sexuel a un prix trop douloureux à payer. Et aujourd'hui, 15 ans après la parution de ce livre, « L'envie », Sophie Fontanelle imagine l'histoire d'une femme qui apprend à un homme à faire l'amour. Cette femme, ce sera Scheherazade, la conteuse des mille et une nuits. Scheherazade qui évite la mort en racontant des histoires au roi Shahriar. Dans l'imaginaire de Sophie Fontanelle, Scheherazade est vierge, évitera de se faire prendre, mais fera exister son désir. Suite de la conversation avec Sophie Fontanelle dans Totémique ce matin.
C'était de fait une obsession dans ma vie, parce que...
Qu'est-ce qui était une obsession ?
De
faire l'amour ?
Non, de pouvoir expliquer ce que c'est pour moi faire l'amour. C'était vraiment une obsession, puisque je me suis sentie très seule. C'est-à-dire que quand mon livre « L'envie » est sorti, et même quand il est sorti aux États-Unis, ça s'appelait « The Art of Sleeping Alone », quand c'est sorti, tout d'un coup, ça a eu beaucoup de succès, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a peut-être une autre façon de faire. Il y a des gens qui ont la chance que d'emblée, ils font l'amour dans un océan de douceur et que c'est merveilleux. Mais il y a plein de gens qui ne vivent pas ça. Et en fait, c'est ce que ce livre que j'avais écrit, L'envie, s'il a eu du succès, c'est parce qu'on s'est rendu compte que cette histoire qui avait l'air d'être mon histoire, elle était l'histoire de beaucoup, beaucoup de gens qui finalement font les choses parce qu'il faut les faire. Ça ne veut pas dire qu'ils ne rêvent pas de les faire génialement, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas envie, ça veut dire qu'ils sont déçus, en fait. Et vous savez, on parle tout le temps du consentement, et on a bien raison, mais finalement, ce sur quoi travaille Scheherazade, c'est le contentement. Comment, toi, homme, tu vas rendre une femme contente? Moi, je me disais, il faut qu'à la fin, les deux se rencontrent, en fait. C'est-à-dire qu'il faut, qu'il y ait...
Faut que les deux aient du plaisir.
Faut que les deux aient du plaisir. Et au début, quand je voulais écrire le livre, je voulais qu'à la fin, évidemment, elle se casse, comme on disait. On se lève et on se casse, là, voilà. Et j'ai parlé avec une amie japonaise qui a lu... je lui reparlais de mon projet. Et je lui disais, voilà, et à la fin, tu comprends, elle va partir. Et elle m'a regardée. Et cette femme, elle m'a incroyablement aidée. Elle m'a dit, si il trouve pas comment y arriver, t'as raté ton livre. Il n'est pas question qu'elle n'y arrive pas. Elle va transformer cet être en un être capable d'aimer et capable de toucher une femme, vraiment. Parce que finalement, c'est quand même un truc de notre époque de se dire, on ne peut pas changer les gens, donc on va juste, finalement, on se demande pourquoi on ne rétablit pas la peine de mort, tellement on la rétablit dans notre tête, quoi. Qu'ils disparaissent dans un trou, quoi. Mais ça existe de changer. Il fallait que les deux bouge en fait. Fallait qu'elle soit plus là pour sauver le monde et fallait que lui, il soit plus là pour la buter, quoi.
Et puis, fallait qu'elle soit plus là aussi, simplement en attendant d'être contentée.
C'est ça. Très bien vu.
Elle est actrice. Ouais. Et finalement, l'histoire que vous inventez, c'est l'histoire d'une femme vierge qui apprend à faire l'amour à un homme. Comment est venue cette idée?
Alors, si je veux répondre le plus honnêtement de tout, je pense la source, c'est que moi-même, je ne suis pas vierge, mais j'ai quelque chose de très, très, très vierge en moi. Et j'ai écrit là-dessus beaucoup. Et je crois que les gens qui font peu l'amour, finalement, sont tout à fait à même d'expliquer ce qu'est faire l'amour. Parce que la raison pour laquelle ils ne le font pas, c'est qu'ils ont peur que ce soit raté, que ce soit vulgaire, que ce soit... Donc, je pense qu'il y a un rôle à jouer. Des gens, soit abstinents, soit tout simplement très rêveurs, ils ont un rôle à jouer. Je pense que c'est ça la source profonde qui m'a fait écrire ce livre.
Au fond, vous vous saisissez de Scheherazade pour parler d'éducation sexuelle.
Oui, ben, vous êtes redoutable, ça va être bien cette interview, parce que au tout début, ma première idée, c'était d'écrire un livre qui s'appellerait « Qu'est-ce que faire l'amour ?». C'est ma première idée de livre. Ensuite, j'ai réfléchi à comment on se transmet ce qu'est faire l'amour.
Qu'est-ce qui vous a été transmis sur les hommes, vous? Parce que c'est vraiment l'un des enjeux du livre. La transmission, l'éducation sexuelle, etc.
Je pense la première chose qui m'a été transmise par ma mère, qui était mère célibataire, c'était que si on faisait l'amour, on pouvait tomber enceinte. C'est pour ça qu'à 14 ans déjà, j'ai dit je veux la pilule alors que je ne faisais pas l'amour du tout, mais j'étais trop terrorisée à l'idée de tomber enceinte. On va tomber enceinte et ensuite on va être abandonnée et ensuite on aura un bébé. Voilà. C'était ça que transmettait ma mère. Mais mon père était un homme un peu à la Monsieur Hulot, comme ça. J'ai sa photo là, avec des yeux très bleus, des dramatiquement maigres. Et ce père, il avait une poésie. Donc en fait, en même temps, j'avais ce père. Par exemple, un jour, je lui ai dit, mais ce serait quoi un homme pour moi? C'est amusant quand on pense au milieu d'une nuit. Il m'a dit, ce sera un homme qui sera heureux comme un roi de t'avoir. Et je dois ajouter à ça que... il y avait des hommes autour de moi qui étaient tellement élégants que quand ils retroussaient leur chemise bleue comme ça, je regardais le bras, je me disais, ça vaut vraiment le coup. Quand mon oncle fumait sa pipe avec ses mains poussant tous ses cheveux un peu bouclés à l'arrière de sa tête, ah, c'était beau, ça sentait bon, je me disais, ça vaut vraiment le coup. Quand je voyais passer un homme, chez les Arméniens, il y avait beaucoup l'été, un costume un peu clair, avec des sandales, et ils étaient beaux avec leur chevilles, avec les sandales, les pieds bronzés, je me disais, ça vaut le coup. Donc j'avais cette idée qu'il y a quelque chose de sublime, vraiment chez un homme, qui passe par la manière dont il se présente. Et j'avais très peur que ça se termine, que je fais l'amour, j'y prends pas de plaisir, et après je suis abandonnée et j'ai un enfant. Voilà. J'ai vécu là-dedans.
Pour continuer sur cette question de la transmission, vous parlez de votre transmission à vous dans le livre. Et il y a un passage, peut-être l'un des plus intimes du livre, j'imagine, où vous dites ne pas avoir d'enfant, et vous dites « Je n'avais pas d'enfant, et si peu fait le nécessaire en vérité pour en avoir. Ce n'était pourtant pas si compliqué que cela, n'est-ce pas? À la portée de n'importe qui. Il n'y avait presque rien à savoir. Beaucoup de gens se débrouillaient, au petit bonheur de la chance. Un enfant, une descendance. J'avais décidé il y a bien longtemps de faire avec ce que j'avais. Mais vous, vous avez envie de transmettre quoi, de fait, sans enfant? Cette question de ne pas avoir d'enfant.
Ben c'est, je crois, exactement la raison qui a fait que je me suis mise sur les réseaux sociaux. C'est que je me suis dit, j'ai quelque chose à transmettre. C'est culotté de se dire ça quand on n'a pas d'enfants, parce que je vois bien ce qui se passe autour de moi, les gens ont des enfants, je vois bien comment ils transmettent avec des enfants qui veulent parfois pas qu'on leur transmette. Moi, j'avais pas ça, donc j'ai commencé à parler avec les enfants de mes amis, et les enfants m'appellent indépendamment des parents pour me voir, pour discuter, et ça me bouleverse, parce qu'en fait, ce que j'ai à transmettre, ils veulent que je leur transmette. Et notamment sur l'histoire sexuelle. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment, c'est un peu comme on dit en anglais « the conversation », quoi. Il y a toujours un moment où ils veulent aller dîner. Et ils me disent « qu'est-ce que tu penses, toi, de ce que c'est faire l'amour ?» C'est-à-dire qu'ils viennent me demander à moi, qui le fais si peu, pour dire pas du tout, ou alors dans ma tête, ils viennent me poser la question. Et souvent, je leur dis « mais pourquoi tu me demandes à moi ?» Mais ils disent « parce que tout le monde ment. » Je sens plus de respect, parfois, de la part de ces enfants que de certains de leurs parents qui se disent... Je sais, carrément, j'ai entendu quelqu'un un jour avait dit « Je sais que cette personne est liée à son enfant, mais si tu parles avec Sophie, tu ne vas pas avoir une vraie idée de ce que c'est. » Ben si, ça leur donne une vraie idée. En fait, ils ont besoin d'entendre à la fois qu'on n'est pas obligé, à la fois qu'on a le droit d'en rêver, que ça compte... À la fois qu'il y a des moments où on perd la tête, enfin, ils ont besoin d'entendre tout, mais aussi qu'ils ont le droit de demander à ce que ce soit sublime. Et ils sont très, très, très nombreux à ne pas oser le demander. Surtout une génération qui est complètement prise par YouPorn et qui est complètement, qui a appris comme ça. Il faut leur expliquer, il faut aller parler avec eux. Et on a de plus en plus de mal à le faire. Moi, ma génération, je suis née en 1962... On réfléchissait à qu'est-ce que c'était certaines pratiques sexuelles orales, enfin surtout une que la femme fait à l'homme, et on réfléchissait et on essayait de visualiser, et on n'avait qu'une idée, c'est que le garçon soit content. On se demandait pas une seule seconde nous si on allait être contente. Là c'est une autre, ils ont l'air d'être beaucoup plus aware comme ils disent, mais en vrai ils sont paumés quand même, parce que la vérité c'est que ce soit grivois ou que ce soit fou d'amour, le sublime doit quand même être là.
On passe à votre carte blanche ?
Oui. Mais c'était quoi ma carte blanche ?
Je crois que c'était un poème de Victor Hugo.
Ah oui, je vais le chercher.
Ok.
Mais évidemment. Ma carte blanche. Ça va, on est bien dans les temps ?
Parfait.
Ma carte blanche.
Ça s'appelle « Vieille chanson du jeune temps ».
J'attends ce poème.
De Victor Hugo.
Bon, j'y vais. Je ne songeais pas à Rose, et Rose au bois vint avec moi. Nous parlions de quelque chose, mais je ne me souviens plus de quoi. J'étais froid comme les marbres, je marchais à pas distrait, je parlais des fleurs, des arbres. Son œil semblait dire « Après ». La rosée offrait ses perles, le taillis ses parasols. J'allais, j'écoutais les merles, et Rose les rossignols. Moi, 16 ans, et l'air morose, elle vint, ses yeux brillaient. Les rossignols chantaient rose, et les merles me sifflaient. Rose, droite sur ses hanches, leva son beau bras tremblant pour prendre une mûre aux branches. Je ne vis pas son bras blanc. Une eau courait, fraîche et creuse, sur les mousses de velours, et la nature amoureuse dormait dans les grands bois sourds. Rose défit sa chaussure et mit d'un air ingénu son petit pied dans l'eau pure. Je ne vis pas son pied nu. Je ne savais que lui dire. Je la suivais dans le bois, la voyant parfois sourire et soupirer quelquefois. Je ne vis qu'elle était belle qu'en sortant des grands bois sourds. « Soit, n'y pensons plus, dit-elle. » Et depuis, j'y pense toujours.
Victor Hugo.
Victor Hugo.
Les Contemplations.
Ouais.
Extrait des Contemplations.
Ouais. « quand les gens disent tous les hommes, pas tous les hommes, même quand on dit tous les hommes, on sait très bien que c'est pas tous les hommes. Mais chaque fois qu'on fait des généralités sur les hommes, je pense à Victor Hugo. Voilà ce qu'il raconte, quoi. C'est tellement délicat. Et surtout, ce qui me touche beaucoup, c'est comment est-ce que... C'est drôle, parce que j'ai pas pensé du tout en prenant cette carte blanche, mais c'est un peu l'histoire de Shahriar et de Scheherazade, parce qu'en fait, elle lui fait son éducation. Et il comprendra que quand une femme met son petit pied dans l'eau pure, etc., et tout ça, il faut peut-être faire un peu plus attention.
Inter, Totemic, Rebecca Manzoni.
Le nouveau roman de Sophie Fontanelle s'intitule Scheherazade et la 602e nuit. Vous n'avez pas lu les contes des mille et une nuits ? Pas grave. Vous en connaissez peut-être sans le savoir. Ali Baba et les 40 voleurs, Aladdin et la lampe merveilleuse. Comme le dit la mère de Sophie Fontanelle, ne sous-estime pas la littérature, ma chérie. Les grands livres, il n'y a pas besoin de les ouvrir pour les connaître. Ça déborde. Cela dit, qu'est-ce que l'histoire des mille et une nuits ? Résumé express par Sophie Fontanelle.
Alors, les mille et une nuits, c'est un homme, sa femme le trompe. Bon, il n'est pas content. Il est le roi d'un royaume qui va du Liban à la Chine. Enfin, c'est vraiment le plus grand royaume au monde. Il est furieux, il tue l'amant, il fait tuer la femme et il décide qu'il ne sera plus jamais trompé. Et il a une idée pour ça. Je vais tous les soirs épouser une femme vierge, je vais la déflorer et le lendemain, je la ferai exécuter. Comme ça... Qui c'est qui ne sera pas trompé ? C'est moi. Et Scheherazade est la fille du ministre, en fait, du grand vizir. Donc elle apprend un jour que toutes ces femmes sont exécutées. Une par soir depuis 3 ans. Et elle dit, c'est là où les contes, hein, ça peut faire des choses les plus dingues, elle dit à son père, ce soir c'est moi qui y vais.
Et Scheherazade évitera d'être exécutée par le roi Shahriar en lui racontant des histoires. Ce faisant, Scheherazade tiendra Shahriar en respect et en haleine. En gros, la fille invente Netflix. Non, mieux. Scheherazade invente la littérature pour sauver le monde. Mais oui, elle évite que ce tyran de Shahriar ne continue à prendre des femmes de force avant de les faire décapiter à l'aube. Pourquoi vous ne lui avez pas imaginé une colère à cette femme ?
Parce que j'en ai pas. Donc c'est difficile pour moi d'en imaginer.
La colère est un sentiment que vous ignorez ?
Je peux me bloquer le dos, quoi, mais je suis au max de ma colère, quoi. J'ai été élevée par des parents qui me disaient, quand je voulais écrire une lettre assassine à un amoureux, ils me disaient, la lettre, mets-la dans une enveloppe, mets-la dans un tiroir, et dans un mois, tu la ressors, tu vois, si t'enverrais cette lettre. Voilà, je suis pas en colère première impulsion, quoi. Je suis pas comme ça. Mais surtout, je lui ai pas imaginé de colère pour une autre raison, c'est que, pour moi, elle a un truc de je vais y arriver, quoi. Donc, au lieu d'être en colère, elle se met à espérer, et elle se met surtout, elle a un plan.
Mais ce qui est intéressant, c'est que précisément, elle arrive à ses fins sans la force. Ce qui est à rebours complet de tout ce qui se passe aujourd'hui.
Ouais. Alors, à propos de ce qui se passe aujourd'hui, parce que moi, quand je l'écrivais, je me disais, mais je m'en vais dans une histoire, et puis tant pis, mais tellement loin de nous. Et en fait, c'est exactement là. Il y a tous ces féminicides et aussi des tyrans. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est cet homme ? C'est un Donald Trump.
Voilà.
C'est ça, non ? C'est un Poutine. Son désir de puissance, sa maîtrise sur le monde et son non-respect de la vie humaine prend toute la place. Et je dis à un moment donné dans le livre qu'il était intelligent, mais que la catastrophe dans laquelle le plonge tous ces assassinats lui a enlevé son intelligence. Parce que le crime, ça vous enlève votre intelligence. Cet homme-là, ce Trump, ce Poutine, ce roi charriard, il dirige tous les autres. Il donne quand même un peu le là. Ben, je veux dire, quand c'était Obama qui donnait le là, je ne parle pas de politique, là, je parle de l'être humain. Quand c'était Obama qui donnait le là, on était quand même un peu mieux que quand ce Donald Trump. Donc, le fait que ce roi soit un type pour qui la vie humaine ne compte pas, ça ne va pas. C'est pour ça qu'elle dit, si on change un homme, c'est que si celui-là, il bouge, les autres, ils vont se dire, ah bon, alors on se trompe, alors il faut changer. Dans le livre, j'ai inventé, hein, mais elle dit, si on change un homme, on change tous les hommes.
Mais de fait, par rapport à cette situation, c'est-à-dire que ce roi, ça, on peut y projeter d'autres choses, comme les tyrans actuels, et vous, le personnage que vous inventez, qui résiste à ça, et qui finit par gagner, le fait avec des armes qui ne sont pas celles de ni de la colère, ni de la force, c'est comme si vous donniez des pistes de résistance.
Évidemment qu'il faut des clés pour dire comment on fait pour désamorcer cette violence. Puisque je parlais tout à l'heure de mon absence de colère, et ça va aussi à mon incapacité à être violente. Mais en fait, il faut désamorcer cette violence. Comment on fait ? Elle passe par la narration. Et j'avais réfléchi quand j'écrivais le livre, je lisais sur les gens qui parlent en situation de violence. Et vous savez sans doute que quand vous êtes dans les prises d'otages, bien souvent, on empêche l'otage de parler, parce que s'il se met à parler, l'otage, on ne peut plus le tuer en fait. Enfin, on ne peut plus le tuer, parfois on le tue quand même, mais il vous emmène dans une histoire, il vous raconte la sienne. Je vous dis juste, c'est une toute petite anecdote, mais il y a eu une prise d'otage très célèbre, je crois, en Suède, dans un train ou un avion, et ils tuaient un otage toutes les heures. Et à un moment donné, l'arme se pointe vers un homme, et il dit, bon, ben, d'accord, parce que personne ne peut y couper, et il dit, je voudrais juste qu'on dise à ma fille que j'ai adoptée, que je l'ai aimée, parce qu'elle est persuadée que je ne l'aime pas, parce que je l'ai adoptée, mais que je l'ai aimée, que j'ai pensé à elle, avant de mourir. C'est une vraie histoire que je vous dis. Et le preneur d'otage a tourné le fusil vers un autre homme, et il a dit, bon, bah, c'est toi que je prends. Il n'a pas pu prendre celui qui avait raconté l'histoire. Enfin, il est peut-être mort maintenant, mais qui était vivant pour nous raconter ça. Ça veut dire, le pouvoir d'ensorcellement d'une histoire est extraordinaire.
On écoute le tube que vous avez choisi ? Enfin, la chanson. C'est la chanson d'un Arménien, puisque c'est Charles Aznavourian. Et alors, vous avez choisi une chanson qui n'est pas vraiment tube. C'est la Baraka, qui est une chanson de film, je crois. Moi, c'est une chanson que je ne connaissais pas.
La Baraka.
Extraordinaire.
Quand tu es entre mes bras, que tu souris. La Baraka, c'est notre vie que l'on brûle avec insouciance. La Baraka, c'est rien que toi et rien que moi dans l'existence. Et nuit et jour, quand tu es là, c'est notre amour, la Baraka.
Nul ne connaît son jour de chance,
car le destin,
sous un lent secret,
ouvre le bal, mène la danse, pour
pour un jour seul, une heure ou jamais. La baraka, c'est quand tu es entre mes bras que tu souris. La baraka, c'est notre vie que l'on brûle avec insouciance. La baraka,
c'est rien,
que moi dans l'existence.
Et nuit et jour quand tu es là,
ouais,
c'est notre amour la baraka.
Voilà, on revient à ce point.
Elle vous fait quel effet cette voix, celle d'Aznavour?
C'est la voix totale. Elle est enrouée, mais elle pousse, elle a quelque chose à dire. Elle est pleine de cœur. Il y a la danse dans cette voix, dans cette chanson, il y a de la danse. Et si un homme, je ne sais pas, je l'imagine avec les bras écartés, avec les poings comme ça, en train de fou d'amour pour une femme et fou de bonheur. Et quand je vois aujourd'hui, on se rencontre par une application, why not, des gens qui se sont épousés comme ça. Et puis après, des copines me racontent, ou alors il m'a dit, tu sais, moi c'est juste un plan cul, etc. Tout ça, quand on me parle comme ça, j'entends la baraka et je me dis non mais c'est pas vrai. Je préfère pas faire l'amour avec quelqu'un qui me chante la baraka, même un mort comme Charles Aznavour, plutôt que rencontrer quelqu'un qui me dit attends, va pas te faire des idées. Hein. Voilà.
Quelle place ont les chansons dans votre vie ?
Énorme, parce que j'ai commencé, j'étais chanteuse, j'étais dans une maison de disques, enfin, tout en faisant mes études. Je pensais que j'allais faire ma vie en étant chanteuse. Mon écriture, si, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est, c'est très mélodieux, parfois ça rime même, c'est comme des chansons, en fait. Et la chanson, c'est, en fait, là, en ce moment, je travaille sur quelque chose sur Prévert et quelqu'un disait, il écrit comme je pense. Ben voilà, les chansons, ça écrit comme je pense, en fait, ça sort les choses comme ça et, j'ai tellement vécu là-dedans en pensant que j'en ferais mon métier, mais j'ai pu mettre même un post Instagram parfois, c'est comme une chanson, j'ai pu mettre ce côté refrain, ce côté où on répète les choses, voilà.
Pourquoi vous n'êtes pas devenue chanteuse alors que vous le rêviez alors ?
Parce que j'ai fait deux disques qui sont pas tellement marché, et en fait mon disque, je me souviens de Michel Magne, très grand musicien, qui croyait beaucoup en moi, et quand je suis allée le voir avec mon disque, il l'a écouté devant moi, il m'a dit c'est vraiment de la merde quoi, il dit t'avais un talent, t'as tout gâché avec à faire un mauvais arrangement, etc. Et il avait peut-être pas tort, mais je suis sortie de là, ah j'étais là, je me suis dit bon bah j'arrête, voilà. On peut vous décourager très vite. Hein.
Pour écrire, vous n'avez jamais été découragée?
Non. Parfois, on parle de l'angoisse de la page blanche. J'ai jamais eu ça, quoi. Je sais pas ce que c'est. Tout ce que je peux dire, peut-être que tout le monde dit la même chose, tout ce que je peux dire, c'est vraiment que je le fais pour le lecteur.
Il y a l'idée d'embellir pour vous, quand vous écrivez.
Ah oui. Ben, moi, je le vis un peu comme... bon, Aragon, il raconte, c'était un temps déraisonnable, on avait mis les mains à table, voilà. Tout changeait de pôle et d'épaule. Moi, si j'y tenais mal mon rôle, tout ça... Okay. Fou que je connais ça par cœur. Eh ben, il raconte ça. C'est quelque chose d'horrible, ce qu'il raconte. C'est quelque chose, c'est ainsi que les hommes vivent. Mais, on s'élève. Mais, on est emporté. Mais, il y a quelque chose de très beau. On est à la fois complètement en train de comprendre ce qu'il veut dire. Et en même temps, est-ce ainsi que les hommes vivent? Quelque part, ça nous donne un espoir. C'est quand même fou.
Je me relève et contrat. Je branche la cafetière électrique. Je me rue dans la salle de bain.
France Inter.
Et je deviens paralytique.
Totemi.
Sous la douche, il y a un éléphant qui me regarde tendrement. Je balbutie en rougissant d'un air gaga probablement. Mais comment donc êtes-vous entré? Puisque la porte était fermée. Il me sourit et il me dit t'occupe pas, donne-moi du nougat. T'occupe pas, donne-moi du nougat. Je bondis sur le téléphone. Je fais le 17 et je donne. J'habite au rond de la rue des douches. Y'a un éléphant dans ma douche. Le flic me dit vas-y toi-même. Ça résoudra tous tes problèmes. Déboussolé, je redéboule là où j'ai laissé ce maboule. La douche est vide, il est parti. Le voilà couché dans mon lit. Il me regarde et il me dit écroule-toi, donne-moi du nougat. Écroule-toi, donne-moi du nougat. Hey, 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 hey.
sans chercher. C'est dans la cuisine à côté.
J'y vais et puis je change de cap. J'enfile un manteau et une cape
pour recouvrir ma nudité. Et je m'enfuis dans l'escalier. Je traverse la ville à pied en cavalant comme une damnée.
J'arrive enfin chez un copain qui va m'accueillir dans son sein. Il ouvre la porte et il me dit: assieds-toi, donne-moi du nougat. Assieds-toi, donne-moi du nougat.
J'ai galopé chez Marina, qui est plus qu'une sœur pour moi. Elle m'a tout de suite donné à boire. Je lui ai raconté l'histoire. Elle a dit: alors t'as fait quoi? Ben je lui ai donné le nougat. Là-dessus je vais me faire un pétard et partir pour monter les mares. Elle me fait: je viens avec toi. Moi aussi je veux du nougat. 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 Moi aussi je veux du nougat.
Sophie Fontanelle écrit des romans, des articles, des posts Instagram. Son compte est suivi par près de 500 000 personnes. L'un de ses derniers posts est consacré à l'appartement de Jacques Prévert, parce qu'il est menacé de destruction. D'ailleurs, vous pouvez signer la pétition pour la sauvegarde de cet appartement sur Internet. Et sur Insta, Sophie Fontanelle écrit: « L'appartement de Jacques Prévert est rempli de lui. Lui au cœur sur la main, lui aux poches trouées toute sa vie, lui pour qui Jacques Couel, génie d'architecte, avait reconfiguré cet appartement en un déluge de blancheur solaire, sans aucun angle droit ni pointu. Lui qui a vécu 20 ans là et qui a encore toutes ses affaires. Le Moulin Rouge possède les lieux et il voudrait faire quoi de ce sanctuaire? Un bar à tapas sur le toit au lieu de boire des verres? Ce serait pas mieux de boire du Prévert? » Sur son compte Instagram, Sophie Fontanelle se présente avec le mot suivant: écrivaste.
Ça veut dire que c'est comme j'essaie d'écrire. Ça veut pas dire que je suis genre une écrivaine qui est connue jusque sur la planète Mars. C'est pas ce que ça veut dire. Et c'est ce que j'essaie de faire quand j'écris. Que ce soit sur Instagram ou dans un poème, dans un roman, j'essaie toujours que l'écriture... que ça s'ouvre, quoi, que ce soit un... J'essaie d'émettre, quoi. Je veux émettre. Moi, je ne fais pas de radio, mais j'essaie d'émettre que ce soit quelque chose qui s'adresse aux autres. Ça. Rien ne me fait plus enrager, enfin, encore que je n'ai pas un caractère très à m'enrager, mais quand on me dit mais tu fais des livres, puis tu parles de toi, mais pour moi, c'est tellement rien par rapport à là où je veux aller. Et c'est pareil, c'est exactement la même chose sur les réseaux sociaux. C'est la même chose... Quand on écrit un livre de 300 pages et sur les réseaux sociaux, pour moi, on ouvre et on essaie d'emmener les gens.
L'une de vos vies, c'est d'écrire sur la mode. Vous y avez d'ailleurs consacré un livre qui s'intitule « La vocation ». Donc, c'est vachement fort comme terme. C'est d'avoir pour vocation comme une sorte d'héritage familial, de parler de la mode. Vous êtes d'origine arménienne. Quel était l'enjeu d'être chic ? Pas d'être à la mode, parce que c'est...
Non, c'est pas pareil. On en voit tellement des gens à la mode pas chic. Bah, c'est simple, être chic, c'était pas cher. C'est-à-dire qu'on pouvait se faire nos vêtements, ma mère me faisait mes vêtements. Enfin, je voyais quelque chose dans Elle, par exemple, ou Marie-Claire, et elle me disait, alors on allait au marché Saint-Pierre chercher le tissu, et elle me le faisait. Finalement, on avait peu de vêtements. Mais bon, je les adorais, je voyais bien comment ça avait été choisi. Et ça allait avec, de pair avec « Bonjour madame, comme votre boutique est belle, mais bien volontiers ». Enfin moi, j'ai su dire « bien volontiers » quand j'étais toute petite déjà. Et on n'était pas des grands bourgeois. Donc il y avait cette idée que le vêtement va vous ouvrir le monde et l'ascension sociale. Et une de mes tantes, pas celle du livre, mais une autre, elle était l'assistante de Pierre Bourdieu. Donc on voyait Pierre Bourdieu, ça arrivait. Et Pierre Bourdieu, nous savions tous que Pierre Bourdieu trouvait qu'il y avait une reproduction sociale dans le fait de s'habiller de manière chic. Et tous, on se mettait l'ongle dans les dents comme ça, un peu embêté, parce que c'est exactement ce qu'on faisait. Mais en même temps, il voyait bien, il le jugeait pas mal. Et je suis bien placée pour savoir qu'ils trouvaient que la manière dont ma famille voulait être complètement aristocratique dans sa manière de s'habiller, ils voyaient bien que ça partait d'un rêve d'ascension sociale, et ils voyaient bien que c'était pas tant de la merde que ça. Voilà, ça correspond à ça pour moi, à quelque chose dont on parle plus du tout, puisque maintenant on dit « ah ben si on n'a pas les sous ». Alors qu'on est dans un monde où ça coûte pas cher du tout de s'habiller, puisque vous êtes dans une boutique vintage, vous pouvez vous habiller en fait. Donc on nous a entré, la société de consommation et le monde dans lequel je travaille, aussi la mode, puisque je suis quand même dedans, nous montre toute la journée des choses qu'on ne peut pas s'offrir. En nous faisant croire que c'est ça le chic. Mais c'est pas ça le chic.
La dernière chose, c'est un Polaroid.
Oui, bien sûr. Faut à toutes les deux ou non, moi?
Comme vous voulez. A priori, c'est toute seule.
Là, ici.
Oui, très bien.
Bien, ça.
Allez-y, prenez-la.
Ouais, ben, il... J'apparais petit à petit, c'est un peu l'histoire de ma vie. Hein.
Ah ouais?
Ouais, c'est ça. Ben oui, quand même, j'ai mis du temps à ce qu'on me voit.
Merci Sophie Fontanelle.
Merci. Merci à vous.
Scheherazade et la 602e nuit de Sophie Fontanelle est publiée chez Segers. Stéphane Le Guenec réalise Totémique et ce matin c'était avec Guillaume Roux et Anne-Laure Cochet. Perrine Malinge co-programme nos invités. Ilinka Negulesco trouve son et documentation. Et pour la bande originale de l'émission, Jean-Baptiste Audibert a choisi aujourd'hui Maïra et Ichon, Jungle, Brigitte Fontaine avec Mousse et Hakim. La semaine prochaine, rencontre dans une fausse cuisine avec Louis Garrel.